Bonjour. Bienvenue au test d'aptitude en langue française. Remplissez le haut de ce livret en écrivant en majuscule et lisiblement votre nom, votre prénom, le prénom de votre père, ainsi que votre date de naissance. Puis ouvrez ce livret à la page 2 et suivez les consignes. Première consigne. Ce test comprend 4 sections qui sont dans l'ordre. Section 1, compréhension orale. Section 2, expression écrite. Section 3, lexique et structure. Et enfin, section 4, compréhension écrite. Deuxième consigne. Pour marquer votre réponse, il vous suffit de mettre un X dans la case qui suit la lettre qui correspond à votre réponse. Troisième consigne. Pour chaque question, donnez une seule réponse. Si vous décidez de changer votre réponse, effacez bien la première, puis mettez la seconde. Quatrième consigne. Essayez de répondre à autant de questions que possible. La note sera basée uniquement sur les réponses correctes. Cinquième consigne. Vous n'utiliserez les feuilles de couleur que pour les sections 1 et 2 de ce test. Elles vous serviront de brouillon. Il est interdit de les détacher. Sixième consigne. Pour la section 2, expression écrite, vous rédigerez les exercices A et B sur les pages 7 et 8 après les feuilles de couleur. Septième consigne. À la fin du test, vous remettrez ce livret au surveillant. Huitième consigne. Maintenant, vous allez commencer votre test avec la compréhension orale. Ouvrez votre livret à la page 3. Section 1, compréhension orale, et suivez les consignes. Section 1, compréhension orale. Question 1 à 10. Vous avez une minute pour lire les questions 1 à 10 imprimées ci-dessous. Vous allez ensuite entendre un message deux fois. Ne prenez pas de notes, mais répondez aux questions au fur et à mesure du message, dès la première écoute. Cochez la bonne réponse dans la case correspondante. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions 1 à 10. Écoutez le message et répondez au fur et à mesure aux questions 1 à 10. Première écoute.
Au fond de la terre, les monstres cracheurs de feu s'activent pour déverser le fruit de leurs entrailles sur la surface de la planète. À plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, au niveau du manteau terrestre, la roche fond et se transforme en pâte. Chaud et bouillonnant, ce magma s'infiltre dans les fissures de l'écorce terrestre pour arriver à une cavité, la chambre magmatique. Ce réservoir, qui peut contenir des dizaines de kilomètres cubes de magma, est situé soit au niveau de la lithosphère, soit au niveau du manteau le plus profond. Là, le magma refroidit et peut séjourner plusieurs siècles avant l'éruption. Mais lorsque survient une nouvelle arrivée de roches fondues, la pression augmente et le magma se remet en marche. Il grimpe jusqu'à la cheminée ou le conduit tubulaire avant d'atteindre le cratère et se déverser à la surface de la Terre. Là, il libère des produits liquides, c'est-à-dire la lave, ainsi que d'autres produits solides et gazeux. Lorsque le magma est fluide et pauvre en gaz, la lave dévale les pentes. Il s'agit d'une éruption effusive. Lorsqu'il est visqueux, le gaz reste piégé, préparant le terrain à une effusion de type explosif. Suivant sa composition, la lave se solidifie très rapidement et forme des aiguilles ou des dômes riches en silice, ou bien elle parcourt des kilomètres sous forme de longues coulées pauvres en silice. Notre planète compte plus de 1300 volcans actifs et des milliers de volcans sous-marins. 65 000 kilomètres de montagnes volcaniques englouties sous les eaux forment les dorsales océaniques. Au contact de l'eau, le magma refroidit et se transforme en roche, puis en un monticule qui arrive parfois à la surface de l'eau. Une nouvelle île naît alors. L'explosion des volcans situés en mer peut provoquer des raz-de-marée ou tsunamis. Tel était le cas en Indonésie, où des villages entiers ont été rayés. 62% des volcans terrestres sont situés autour du Pacifique. Une des plus grandes explosions du siècle est celle qui a détruit le mont Sainte-Hélène aux États-Unis. C'est aux Philippines, par contre, que s'est produite la dernière grande éruption du siècle, où des nuages de poussière et de gaz à 500 degrés ont été propulsés à plus de 30 kilomètres. Mais grâce à la bienveillance des scientifiques, des milliers ont été évacués à temps. En effet, lorsque l'éruption est proche, le magma s'accumule sous la montagne et en gonfle les flancs. Les scientifiques peuvent ainsi, à travers les inclinomètres, constater la plus petite variation de la pente du volcan et prévoir les éruptions.
Deuxième écoute.
Au fond de la Terre, les monstres cracheurs de feu s'activent pour déverser le fruit de leurs entrailles sur la surface de la planète. À plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, au niveau du manteau terrestre, la roche fond et se transforme en pâte. Chaud et bouillonnant, ce magma s'infiltre dans les fissures de l'écorce terrestre pour arriver à une cavité, la chambre magmatique. Ce réservoir, qui peut contenir des dizaines de kilomètres cubes de magma, est situé soit au niveau de la lithosphère, soit au niveau du manteau le plus profond. Là, le magma refroidit et peut séjourner plusieurs siècles avant l'éruption. Mais lorsque survient une nouvelle arrivée de roches fondues, la pression augmente et le magma se remet en marche. Il grimpe jusqu'à la cheminée ou le conduit tubulaire avant d'atteindre le cratère et se déverser à la surface de la Terre. Là, il libère des produits liquides, c'est-à-dire la lave, ainsi que d'autres produits solides et gazeux. Lorsque le magma est fluide et pauvre en gaz, la lave dévale les pentes. Il s'agit d'une éruption effusive. Lorsqu'il est visqueux, le gaz reste piégé, préparant le terrain à une effusion de type explosif. Suivant sa composition, la lave se solidifie très rapidement et forme des aiguilles ou des dômes riches en silice, ou bien Elle parcourt des kilomètres sous forme de longues coulées, pauvres en silice. Notre planète compte plus de 1300 volcans actifs et des milliers de volcans sous-marins. 65 000 kilomètres de montagnes volcaniques englouties sous les eaux forment les dorsales océaniques. Au contact de l'eau, le magma refroidit et se transforme en roche, puis en le monticule qui arrive parfois à la surface de l'eau. Une nouvelle île naît alors. L'explosion des volcans situés en mer peut provoquer des raz-de-marée ou tsunamis. Tel était le cas en Indonésie, où des villages entiers ont été rayés. 62% des volcans terrestres sont situés autour du Pacifique. Une des plus grandes explosions du siècle est celle qui a détruit le mont Sainte-Hélène aux États-Unis. C'est aux Philippines, par contre, que s'est produite la dernière grande éruption du siècle, où des nuages de poussière et de gaz à 500 degrés ont été propulsés à plus de 30 kilomètres. Mais grâce à la bienveillance des scientifiques, des milliers ont été évacués à temps. En effet, lorsque l'éruption est proche, le magma s'accumule sous la montagne et en gonfle les flancs. Les scientifiques peuvent ainsi, à travers les inclinomètres, constater la plus petite variation de la pente du volcan et prévoir les éruptions.
Questions 11 à 15. Observez durant une minute le tableau ci-dessous. Vous allez maintenant entendre une seule fois un message. Remplissez le tableau au fur et à mesure de l'écoute. Attention, ne mettez qu'un seul mot par case.
Fumer imprègne l'air, empeste les poumons et augmente le risque d'infection respiratoire. Pour arrêter de fumer, il faut dresser une liste de toutes les raisons qui vous y incitent, modifier votre consommation de cigarettes, arrêtez de fumer pendant un jour et nettoyez vos dents pour éliminer le goût des cigarettes. En moins de 12 heures, après que vous aurez fumé votre dernière cigarette, votre organisme sera déjà en voie de guérison. Votre cœur et vos poumons commenceront à se régénérer pour réparer les lésions dues à la fumée des cigarettes. Dans les jours qui suivent, vous risquez de vous sentir las, épuisé et à bout de nerfs. Mais vous remarquerez plus tard que vos sens de l'odorat et du goût se sont améliorés. Vous pouvez respirer plus facilement et votre toux liée à la consommation prolongée de cigarettes a commencé à disparaître. Il est difficile de rester non-fumeur après avoir fumé une cigarette. Alors, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas manquer à votre résolution ou votre bonne intention.
Questions 16 à 25. Vous allez entendre un message une seule fois. Prenez des notes sur les feuilles de couleur, puis répondez aux questions 16 à 25. Attention, vous utiliserez vos notes dans la section suivante. Vous avez maintenant une minute pour lire les questions 16 à 25. écoutez le message et prenez des notes, puis répondez aux questions 16 à 25.
Il est plus difficile pour un enfant de quitter sa maison et sa famille et d'ignorer sa maladie que d'entrer à l'hôpital. Pour améliorer ces conditions, une charte des droits de l'enfant hospitalisé a été signée par plusieurs associations européennes en 1988. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les médecins se sont rendus compte de la nécessité d'accueillir les enfants requérant des soins à l'hôpital en différenciant la façon de les recevoir par rapport aux adultes. Un enfant ne doit être admis à l'hôpital que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison. Il a le droit d'avoir ses parents auprès de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état. Ainsi, ils pourront participer activement aux soins de leur enfant. Les enfants ont le droit de recevoir une information sur leur maladie et sur le traitement qui leur sera fourni, qui soit adapté à leur âge et à leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant. Dans certains pays, le consentement des mineurs est demandé dès l'âge de 10 ans. Les médecins doivent aussi éviter tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable pour réduire au minimum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur. Réunis dans des services spécialisés par groupe d'âge, les enfants doivent bénéficier de jeux, de loisirs et d'activités éducatives dans un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge. Les plus âgés doivent pouvoir continuer leur scolarité le plus normalement possible, surtout en cas de maladie chronique. Enfin, l'enfant doit être traité avec tact et compréhension en toutes circonstances. Il faut, dans la mesure du possible, respecter son sommeil, lui demander l'autorisation de l'examiner et lui expliquer ce qu'on va lui faire. Bref, il ne faut pas traiter l'enfant en adulte miniature. La charte de l'UNESCO stipule d'ailleurs le droit des enfants aux meilleurs soins possibles et le considère comme un droit fondamental.
Il vous reste 2 heures pour terminer ce test.